France Inter.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Le temps d'attente aux urgences pourrait-il être amélioré, optimisé par l'intelligence artificielle? C'est le pari que fait l'hôpital de Valenciennes, qui s'appuie sur une IA pour anticiper le flux de patients et patientes. Bonjour Antoine Maisonneuve.
Bonjour.
Vous êtes médecin au centre hospitalier de Valenciennes, chef des urgences, et vous avez travaillé avec la société Sania sur deux outils qui sont déjà en place. Un troisième est en cours de développement. Quel est le constat de départ, docteur? On sait que l'affluence des urgences est en hausse un peu partout en France. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans votre hôpital?
On a eu une augmentation de près de 80% de l'activité en 14 ans depuis qu'on est rentré dans les locaux. Pour vous donner un chiffre plus précis, on est rentré en 2009 dans les urgences qu'on occupe actuellement. On accueillait 118 patients par jour et en 2024, on en accueille 210.
Alors, vous développez plusieurs outils liés à l'IA. Le premier est conçu pour anticiper l'affluence. Comment ça marche ?
On regarde un petit peu toute l'activité qu'on a eue ces dernières années. Donc, on prend les données des 8 dernières années, depuis qu'on a travaillé avec l'IA. On prend aussi certains éléments extérieurs qui peuvent impacter l'activité des urgences. Ça nous permet de nous projeter à 5 jours sur le nombre de patients qui vont être admis aux urgences et puis le nombre d'hospitalisations qui vont en découler. Donc, cette anticipation de flux permet de nous, au niveau des effectifs, au niveau de l'équipe, ça me permet de renforcer au niveau médical si besoin ou de renforcer aussi au niveau paramédical. Comme là, la semaine dernière, juste avant le week-end, on avait une prédiction à 260 patients attendus pour le lundi. Donc le vendredi, on a activé des renforts pour pouvoir nous adapter à ce flux qui a été vérifié puisque on a eu 262 patients.
Vous avez évalué sa fiabilité à cet outil de prédiction?
L'outil de prédiction à 5 jours, on l'a évalué. On a une fiabilité de plus de 90%, donc 9 fois sur 10, c'est correct. Ça se base sur l'activité des années antérieures, donc les 8 ans à l'heure actuelle. À chaque année qui s'écoule, ça vient apporter de la matière à cette intelligence artificielle pour prédire. Et puis, il y a des éléments extérieurs qu'on prend en compte, des éléments sociaux, comme quand il y a des grèves au niveau du secteur de la santé, ça nous impacte. On a étudié la météorologie, la météo a un peu moins d'impact. Il y a certains événements qui peuvent nous impacter, mais moindres. Il y a des événements sportifs, pas forcément des matchs, mais des événements sportifs qui peuvent être traumatologiques, qui nous amènent un flux important de patients. Voilà. Et puis à chaque fois, on essaye d'alimenter l'IA en testant d'autres événements extérieurs.
Le deuxième outil d'intelligence artificielle est baptisé Urgence Plus. Et là, il donne de l'information directement aux patients et patientes, c'est ça?
Tout à fait. Le premier outil, c'était plus pour manager, organiser les équipes. Et le deuxième outil, ça permet de communiquer auprès des patients et puis des accompagnants sur le temps d'attente que vous aurez au niveau des urgences, la durée de votre séjour aux urgences. Ça vous permet aussi de voir le taux de fréquentation des urgences, savoir combien il y a de patients aux urgences, si c'est important, très important ou plutôt calme. Et puis, ça vous permet aussi de voir ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures. Et c'est aussi un outil qu'on utilise pour communiquer sur certaines règles, c'est-à-dire que quand vous venez aux urgences, faut savoir que c'est pas par ordre de passage, mais la priorité est la gravité du patient. Et puis on donne des éléments de communication, contacter le 15 ou bien la régulation libérale en cas de besoin.
Est-ce que vous constatez que ça permet d'orienter vers d'autres solutions des patients et patientes qui n'ont rien à faire aux urgences, pour le dire simplement?
Là, à l'heure actuelle, on n'a pas encore suffisamment de recul pour avoir une idée précise ou une étude qui nous permette de dire que ça a été efficace. Ce qu'on a, c'est uniquement le retour direct des patients ou des accompagnants, et puis des agents aussi qui accueillent le public, qui sont satisfaits de l'outil parce que ça permet d'avoir quelque chose de concret et de se projeter et de savoir que voilà, les patients ou les accompagnants, notamment les accompagnants, sont contents d'avoir une idée, savoir il y en a pour 3 heures, comme ça ils peuvent se projeter et puis repartir pour revenir plus tard ou bien appeler plus tard et pas appeler dans une demi-heure où on n'aura pas d'informations à leur communiquer.
Le troisième outil, je le disais, est en cours de développement. Et cette fois, il s'agit de prédire le parcours des patients. En quoi ça consiste ?
Alors, l'outil qui va rentrer en phase de test, c'est un outil, comme vous dites, de prédiction du parcours personnalisé du patient. En fonction de ce qu'on sait du patient, vous pourrez, via le site de l'hôpital, en rentrant votre numéro identifiant patient, d'avoir les étapes de votre parcours et puis avoir une idée de la durée de votre parcours à vous. Vous rentrez à midi, on va, en fonction de ce que vous avez, on vous dira voilà les différentes étapes de votre parcours avec des top horaires, c'est-à-dire que rentrer à midi, on pense que votre sortie se fera entre 15h et 15h30 par exemple. Il n'y a aucune information médicale, c'est que du temps.
Est-ce que vous ne craignez pas que ça déshumanise un peu la relation entre les patients et les soignants ?
Ça n'aura pas d'impact sur la relation patient-soignant. Au contraire, l'objectif, c'est de diminuer la charge mentale pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez vous projeter, vous dire, voilà, j'en ai pour 3 heures, j'en ai pour 2 heures, j'en ai pour 4 heures. C'est une information que tout le monde a envie de savoir, au moins avoir une idée de la durée du parcours. Ça n'enlève en rien le contact patient-soignant qui restera toujours principal dans nos prises en charge. Au contraire, ça améliore notre communication envers les accompagnants qui ne peuvent pas rentrer dans notre service, qui restent à l'extérieur. Et ça, pour les soignants, comme je vous dis, ça diminue aussi la charge mentale puisqu'on constate qu'on a énormément de coups de fil passés aux urgences pour avoir une idée de savoir où on en est dans la prise en charge. Et ça ne peut que l'améliorer.
Cette initiative de l'hôpital de Valenciennes de travailler avec des intelligences artificielles, est-ce que ça suscite l'intérêt d'autres hôpitaux ailleurs en France ?
Oui, complètement. Ça suscite l'intérêt de bon nombre d'hôpitaux et de services d'urgence, notamment pour communiquer le temps d'attente, puisqu'on nous le demande dans le cadre de la certification, de communiquer nos temps de prise en charge, notre taux de fréquentation auprès de la salle d'attente. Donc là, on est complètement dans ce cadre. Donc il y a plusieurs hôpitaux qui s'y intéressent, il y a plusieurs hôpitaux qui ont commencé un partenariat avec la société Sania et qui ont mis en place cet outil.
Merci beaucoup Antoine Maisonneuve, médecin-chef des urgences de Valenciennes. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Il est toujours plus facile de se mettre à la course à pied ou au tricot ou à la peinture à plusieurs. Or, trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes loisirs n'est pas toujours évident. Eh bien, voici une nouvelle application qui entend mettre en relation les gens autour des loisirs. Elle s'appelle Grenadille et elle concerne pour l'instant surtout les Hauts-de-France. Bonjour Aurélie Castelin.
Bonjour Dorothée.
Vous habitez Flines-les-Raches, près de Douai. Vous êtes la créatrice de Grenadille avec votre frère, je crois. Comment est née cette idée au départ ?
Alors l'idée, elle vient de ma cousine. C'est vraiment une histoire de famille dès le départ, qui a elle-même 4 enfants et qui aimerait que ses enfants découvrent des activités qu'elle-même pratique pas, comme la pêche, la couture. Et finalement, c'est pas toujours si simple de se connecter à des passionnés qui ont envie de partager leur centre d'intérêt. Et donc l'idée vient de là à la base, de créer des liens un peu intergénérationnels avec des gens autour de nous.
Comment ça marche alors, Grenadille ?
Alors, de façon très simple, on a développé donc une plateforme, un site internet où on vient, à travers son profil, indiquer des activités qu'on aimerait découvrir ou qu'on pratique déjà. Et puis, très facilement, on propose des rencontres. Et puis, grâce à un système de notifications, de calendrier interactif et de cartes interactives, on peut voir les activités qui sont proposées au bout de notre rue, dans l'heure, ce week-end, avec les personnes qui nous entourent.
Donc, vous parlez d'activités. Le but, c'est de rencontrer des profs, des ateliers ou même des gens, des amateurs pour pratiquer le même loisir ensemble.
Alors effectivement, il y a des amateurs, des experts. On embarque tout le monde sur la plateforme pour découvrir des activités et puis pour permettre aux plus passionnés de transmettre leur savoir-faire. Chacun est acteur finalement et peut partager des événements, proposer des rencontres selon ses intentions.
Alors, quelques activités en vrac peut-être pour qu'on se fasse une idée ?
Eh bien, partager une randonnée, partager une soirée de jeux de société, proposer un atelier créatif, une initiation golf. Voilà, ça fait partie des activités qui sont plus proposées aujourd'hui sur Grenadier.
C'est votre métier, Aurélie, aujourd'hui ?
Effectivement, je suis à plein temps sur le projet depuis le mois d'avril. On a créé la société en octobre 2024 et donc je consacre le montant à ce projet qui me tient à cœur.
Et vous faisiez quoi avant, si c'est pas indiscret ?
Alors avant, j'étais responsable marketing d'un réseau de distribution peinture et donc j'ai animé une communauté finalement pendant plus de 15 ans, plutôt dans la distribution professionnelle peinture. Et finalement, les liens qui peuvent se créer aussi au sein dans le milieu professionnel se créent également à travers les loisirs qu'on peut partager ou les centres d'intérêt qu'on peut avoir en dehors de l'activité professionnelle. Donc ça a nourri un peu aussi l'idée de ce projet. Et de construire cette plateforme.
Histoire de famille, disiez-vous. Votre frère est développeur, hein, c'est ça ? C'est lui qui s'est occupé de la partie technique de Grenadille ?
C'est ça, exactement. Ça fait, oui, il est lead développeur. Aujourd'hui, il ne codait plus, puis il a envie de remettre vraiment ses compétences au service d'un projet impact aussi. Et donc, c'est lui qui a développé la plateforme.
L'ambition, c'est de sortir des écrans, disons-le ?
Ouais, clairement. Sortir des écrans, d'inciter les gens à bouger plus, à découvrir, apprendre des nouvelles activités, et puis de faire des nouvelles rencontres qui vont permettre finalement de s'enrichir et de passer des bons moments ensemble.
C'est ironique, vous proposez d'utiliser un écran pour sortir des écrans.
Finalement, effectivement, on se repose sur un outil digital pour se reconnecter à la vraie vie, finalement. Mmh. C'est effectivement ça l'essence du projet, c'est de reconnecter parce que ça facilite la mise en relation, finalement. Donc, on utilise le digital pour revenir à la vraie vie et partager des moments dans la vraie vie.
Et c'est gratuit d'utiliser Grenadille ?
Effectivement, pour tous les utilisateurs, c'est complètement gratuit.
Comment vous financez-vous ?
Alors, on adresse notre solution aux professionnels qui vivent de leur passion et qui ont besoin de gagner en visibilité, qui ont besoin d'optimiser leur communication. Et donc, ce sont eux qui contribuent au projet. Et puis également aux entreprises qui souhaitent animer des communautés de collaborateurs ou de clients et qui veulent finalement renforcer l'engagement et la cohésion des membres en valorisant leur passion.
Donc si on veut créer par exemple un club de pêche dans son entreprise, c'est l'entreprise qui va payer un compte chez vous et donc financer votre application.
Effectivement, voilà, pour créer des communautés au sein des entreprises, c'est l'outil idéal.
Pourquoi ce nom, au fait, Grenadille ?
Alors c'est la fleur du fruit de la passion.
Oh.
Et la passion, elle est vraiment, ça fait vraiment partie de notre raison d'être, de cultiver et nourrir la passion chez les gens. On est persuadé que les loisirs et la passion, c'est vraiment source d'une meilleure santé, à la fois physique, mentale et sociale, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vraiment la jeunesse du projet.
Il y a un enjeu de santé publique, hein, vraiment.
Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de sédentarité et d'inactivité des gens, c'est clairement un problème. Et puis, pareil, d'isolement. Donc, on veut vraiment contribuer à permettre aux gens d'être en meilleure santé. Ouais, clairement.
Merci beaucoup, Aurélie Castelin, créatrice de Grenadille, application collaborative dédiée aux loisirs. Donc, bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Et je remercie la solide équipe des carnets de campagne. Joseph Ascal, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation des émissions. Gaspard Guy Bourget à la technique aujourd'hui.